La fille au foulard par Rachel De Caro, œuvre publiée sous licence Creative Commons BYNCND 3.0 en lecture libre sur atramenta.net, enregistrée par Christiane Johan. La fille au foulard. Elle dansait les pieds nus sur la terre battue, la fille au foulard bariolé. Le musicien, bras dessus, bras dessous, enlaçait sa guitare et grattait un air entraînant. À la lueur du feu de camp, leurs ombres se profilaient sur le sol. Assis autour d'eux, les membres de la tribu rythment de leurs mains le chant traditionnel qui s'exhale de leur poitrine. Demain, au lever du jour, ils reprendront la route vers un ailleurs non défini. Ils s'arrêteront quand ils le voudront. Il ne restera, près des cendres, qu'un culot de bouteille cassée et une goutte de sang séché. 1. Bagarre nocturne. Dans la caravane, Mario, l'air maussade, observe Josetta, en train de soigner Sandra. Il grommelle. « Je t'avais prévenu, tu ne dois pas danser les pieds nus. Tu n'es pas de leur monde, ma fille. Demain, tu vas choisir des sandales dans le camion. Et je n'en veux pas. Ou bien des espadrilles, ou des ballerines, comme tu voudras. Mais tu n'es pas une va-nu-pied. » « De toute façon, complète Josetta, tu vas devoir danser sur un seul pied pendant un certain temps. Tiens, c'est quoi ce tintamarre ?» Mario entrouvre la porte de la caravane et les cris, les bruits de bouteilles cassées, d'objets projetés se renforcent. Ils se battent là-bas, partons, montez dans le camion. Il se dirige vers son véhicule. Josetta soutient Sandra qui boitille à sa suite. Elle ne proteste pas, elles savent que lorsque Mario donne un tel ordre, il faut obéir sans un mot. La caravane est toujours attelée au camion. Le véhicule démarre quelques instants plus tard et s'éloigne sans grand bruit. Mario a seulement allumé les veilleuses pour ne pas attirer l'attention. Il se dirige vers la sortie arrière du terrain. Ils rejoignent la petite route de campagne qui s'enfonce entre bois et champs. Mario connaît la région par cœur. Il ne s'en éloigne jamais beaucoup. Il y a ses habitudes, ses relations, son travail. Il n'est pas membre d'une des ethnies de gens de voyage. Il est seulement un sans domicile fixe, avec sa femme et sa fille. Il est cependant en bon terme avec ceux qui sont de passage. Parfois, ils se retrouvent à intervalles réguliers et sympathisent le temps de leur court séjour. Il arrive au bord du lac du Vert-Galant, dans une aire de repos aménagée pour les marcheurs. Normalement interdite aux camping-caristes, il sait qu'il ne pourra y rester longtemps, mais ils pourront y terminer la nuit, loin des événements qui se déroulent dans le terrain de pas passant, consacré aux gens du voyage. Camion verrouillé, tous trois s'installent dans leur caravane, leur domicile pas fixe, leur cocon douillet. Sandra n'a connu que cette maison, alors que Mario et Josetta ont choisi d'y résider après des vies plus classiques. 2. Point du jour. Au matin, le terrain de pas passant est désert. Toutes les caravanes et camping-cars des gens du voyage ont repris la route avant même le lever du jour. Les fils à linge ont été décrochés, les barbecues et foyers éteints, des sacs poubelles entassés près du point d'eau, des déchets traînent malgré tout un peu partout, dans les ornières tracées par les lourds véhicules dans la boue du chemin. Les voitures de la gendarmerie arrivent à toute vitesse, mais seules les accueille le corps d'un jeune homme, étalé sur le sol, la tête ensanglantée près d'une bouteille fracassée, privée de vie. L'un des gendarmes le reconnaît. « C'est un des gamins de la cité des Murets, là, à côté. Qu'est-ce qu'il fait là? D'habitude, ces mômes-là ne se mêlent pas aux gens du voyage. » Pourtant, l'appel anonyme a parlé d'une bagarre entre deux groupes. Oui, mais il n'a pas dit qui était la victime. Il a juste parlé d'un corps au sol. « Ramassez-moi tout ce qui traîne, en particulier les bouts de verre. Nous devons tâcher d'avoir des empreintes pour trouver l'agresseur. » Les hommes se mettent en quête, en cercle concentrique, de plus en plus éloignés du corps, photographiant les traces de pneus, ramassant les débris de verre, de plastique, de métal. Ils doivent déterminer quelles étaient les personnes présentes, peut-être témoins du meurtre, ou du moins ceux qui occupaient le terrain la veille au soir. Même si les gens du voyage circulent souvent en convoi, ils couvrent parfois des distances considérables en peu de temps, surtout si c'est pour s'éloigner un endroit chaud pour eux. La trace d'un véhicule semblant s'éloigner du centre du terrain en direction d'une sortie annexe attire l'attention des gendarmes. Mais sur le bitume, les marques de boue s'effacent rapidement. Près d'un foyer éteint, un culot de bouteille est ramassé, porteur d'une trace de sang encore frais. Il est éloigné de l'endroit où s'est déroulée la bagarre, mais il est peut-être un indice important, malgré tout. 3. Surprise ADN. Enquête de voisinage dans la cité, interrogation systématique, identification de la victime, les gendarmes ne tardent pas à retrouver la trace des gens du voyage qui occupaient le terrain de Papassan ce soir-là. Le laboratoire scientifique est mis à contribution pour confirmer ou infirmer les allégations des différents intervenants. Quelques individus sont interpellés, amenés à la gendarmerie, soumis à un feu roulant de questions. Petit à petit, la bagarre nocturne est reconstituée dans ses prémices, son déroulement, sa fin tragique. Les uns et les autres se rejettent la responsabilité de la provocation autant que de la mort du jeune homme de la cité. Des gardes à vue sont prononcés et des avocats commis d'office conseillent les prévenus et embrouillent les discours. Le commissaire Dupuy, responsable de l'enquête, soupire. Il pressent que la vérité ne sera pas facile à établir. Chacun des protagonistes s'acharnant dans les versions diverses et se retranchant dans les mensonges les plus contradictoires. Le médecin légiste a établi que la bouteille cassée sur le crâne de la victime est bien à l'origine de sa mort, mais il a également trouvé des substances illégales dans son sang, et cela ajoute à la complexité de l'affaire. Les objets ramassés sur la scène de crime ont été analysés par le laboratoire scientifique et classés selon leur pertinence, regroupés selon les résultats obtenus. Il en est cependant un qui laisse le spécialiste perplexe. À deux reprises, il vérifie son travail, relance la recherche dans les fichiers d'identification et finalement se décide à aller trouver le commissaire sans avoir la réponse à son énigme. « Commissaire, je me trouve en face d'une situation particulière. Vous vous souvenez de ce tesson de bouteille trouvé à l'écart de la scène de la bagarre? Il y avait du sang dessus. » « Oui, et alors ?» « Eh bien, je ne pense pas qu'il puisse apporter une réponse à ce qui s'est passé la nuit dernière, mais... » « Allons, ne me faites pas perdre mon temps. Qu'est-ce qui vous tracasse ?»« Voilà. L'ADN retrouvé sur ce culot de verre correspond à une affaire de disparition d'enfant datant d'il y a 17 ans. »« 17 ans ? Une disparition d'enfant ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» L'ADN n'est pas totalement identique à celui de la mère, mais il pourrait correspondre à celui de l'enfant. « Non, ce n'est pas possible. Vous devez faire une erreur. Vérifiez encore. »« Je l'ai déjà fait, et cet ADN n'appartient à aucun des protagonistes de la bagarre fatale. » 4. Métier, chiffonnier. Au matin, Mario a emmené sa famille dans un autre terrain, pas vraiment autorisé aux gens du voyage, un fond de parking industriel, sans équipement de sanitaire, mais où il peut garer son camion et sa caravane sans être inquiété. Il sait qu'il ne pourra rester là longtemps, mais cela lui donne le temps de réfléchir. Il déteste devoir partir en urgence, mais ne pouvait accepter de se trouver pris à partie dans une bagarre. Son activité est acceptée dans la région parce qu'il affiche une attitude toujours discrète, conciliante, bienveillante même, et qu'il est soutenu par les associations caritatives avec lesquelles il pratique des échanges de bons procédés. En effet, comme l'indiquent les flancs de son camion, il s'occupe de chiffons et foulards. En vérité, il récupère des tissus, des vêtements, des chaussures dont les gens veulent se débarrasser. Et il les revend parfois, mais souvent les donne à des nécessiteux. Ce n'est évidemment pas un commerce qui lui rapporte beaucoup d'argent, mais il est riche de relations humaines exceptionnelles, apportant souvent du réconfort et du bien-être à des personnes qui en manquent cruellement. Lorsqu'il avait décidé de se lancer dans cette occupation, il avait racheté un camion-magasin utilisé par un marchand de mode ambulant. Pour Josetta, il avait installé un espace de couture avec une machine à coudre à pédale et une autre aussi électrique où elle arrange, ajuste les vêtements pour que les acquéreurs soient satisfaits. Il avait adjoint à son camion-magasin une petite caravane où il loge avec sa femme et leur fille Sandra. Ils étaient ainsi libres de leurs mouvements sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit. La petite allait parfois à l'école, mais le plus souvent c'était lui et Josetta qui lui enseignaient ce qu'elle devait apprendre. La fillette, elle, avait toujours eu une prédilection marquée pour les foulards. Elle aimait danser avec eux, les pieds nus, dans la musique que les gens du voyage jouaient pour elle auprès du feu le soir, il se demande s'il ne devrait pas se rapprocher du camping municipal de la Boire Torse, où il a l'habitude de séjourner en fin de saison, avant la fermeture pour l'hiver. Il sait que la présence de son camion est tolérée quand il commence à être déserté, et surtout parce qu'il connaît le gardien. 5. Dans le journal. L'affaire de la mort du jeune de la cité des Murets, dans le terrain de Papassan consacré aux gens du voyage, fait grand bruit dans la presse. Les journalistes font leur chou gras en menant leurs enquêtes parallèlement à la gendarmerie, exploitant les particularités des deux communautés, exacerbant leurs différences, opposant leurs discours, les uns et les autres tentant de se défendre à tout prix. Mario se procure les journaux et les lit attentivement. Les conséquences de la bagarre nocturne lui prouvent qu'il a bien fait de s'en éloigner le plus vite possible. Surtout, ne pas être amalgamé aux groupes qui se sont opposés. Il n'est pas plus membre des gens du voyage que de la cité à la mauvaise réputation. D'autant plus que sa quête aux informations le ramène longtemps en arrière, il y a 17 ans exactement. Mais, comme à cette époque, aucun fait, même divers, ne mentionne ce qui le préoccupe, sauf une petite phrase, au bout d'un article, où il est indiqué qu'une piste secondaire est suivie par les enquêteurs à propos d'un résident du terrain de Papassan qui aurait emprunté la sortie secondaire. L'indication l'alerte. Il pense qu'il est seul à avoir suivi ce chemin. Or, si les recherches se dirigent sur ces traces, les gendarmes ne tarderont pas à le rejoindre. Il décide donc de partir à nouveau et d'aller installer sa famille au camping de la Boire Torse. Ainsi, sa femme et sa fille seraient à l'abri s'il devait lui arriver quelque chose. Mario ne s'inquiète pas facilement. Il mène une vie discrète, autant qu'honnête, et a toujours été respectueux des lois. Sauf en une occasion, même si à l'époque, il avait pensé agir au mieux. Il sait aussi que ceux que l'on pourrait considérer comme ses complices ont disparu depuis longtemps, et personne ne viendra témoigner de ses actes, ni en bien, ni en mal, d'ailleurs. Il lève donc le camp dès le lendemain matin, s'efforçant de ne laisser aucun indice de leur passage, afin de semer d'éventuels poursuivants. La pluie du jour lessivera toutes les traces invisibles qu'ils pourraient laisser derrière eux. Mario n'a rien dit à sa fille, mais il a juste, d'un ongle, signalé à Josetta la petite phrase sibylline à la fin de l'article du journal. Josetta a compris. 6. Interpellation. Comme le présumé Mario, le gardien du camping, Marcel, les accueille avec amabilité. Il les laisse s'installer dans un coin un peu reculé, à l'abri d'une haie assez fournie qui les dissimule au regard des quelques vacanciers qui achèvent leur séjour. La petite caravane est dételée, bien calée sur ses pieds. Le camion, lui, pourra circuler, comme d'habitude, pour les occupations de collecte, autant que de distribution-vente des vêtements. En quelques phrases sobres, profitant d'un moment d'absence de sa fille, Mario donne ses instructions à Josetta. « Tu restes là, avec Sandra, quoi qu'il arrive. Marcel pourra vous aider si je dois m'éloigner. »«
Tu ne vas pas partir, quand même ?»«
Non, du moins pas de mon plein gré. » Mais j'ai une sale intuition. Je n'aime pas ce qui se dit, et tu as vu la phrase dans le journal, piste secondaire. Cela veut dire que ce n'est pas forcément lié à la bagarre et au crime de l'autre nuit.
Tu crois que...
Je ne crois rien. Mais si... Enfin, nous n'avons jamais voulu dire la vérité à Sandra, mais peut-être qu'il serait temps.
Je ne veux pas la perdre.
Je sais, moi non plus. Mais rappelle-toi, nous nous étions dit qu'il le faudrait quand elle serait grande. Là, elle va avoir 18 ans. Ce serait sans doute le moment de toute façon. Elle sera majeure et pourra décider de son avenir. Mais pour répondre aux questions qu'elle pourra se poser, il faut qu'elle sache.
Oui, tu as raison.
Un bruit de moteur les attire dehors. La couleur bleue soulignée de blanc ne laisse aucun doute sur la qualité des occupants, eux-mêmes habillés de marine et de ciel, qui en descendent. À ce moment-là, Sandra revient avec une baguette de pain à la main. Elle dépasse les gendarmes et se met aussitôt aux côtés de ses parents, devant la caravane.
« Bonjour, mesdames, monsieur. Mario Componetti. »«
Bonjour, oui, c'est moi.
Veuillez nous suivre. Nous avons quelques questions à vous poser. »«
Vous m'arrêtez ?»«
Non. Mais vous souhaitez répondre devant votre femme et votre fille ?»
Mario se mord la lèvre. Il repense à la discussion qu'il vient d'avoir avec Josetta. Ah, s'il avait su devancer ce moment, il se tourne vers sa femme.
« Je vais avec eux. Je reviens bientôt. Toi, tu vois avec Sandra ce qu'on vient de dire. Compris ?»«
D'accord. »
et il s'avance vers les gendarmes.
Sandra se met à ses côtés et, furieuse tout d'un coup, brandit sa baguette de pain comme une épée vers les hommes en uniforme.
« Qu'est-ce que vous lui voulez à mon père, hein? Vous avez pas le droit de... »
Josetta prend sa fille par le bras et la tire en arrière, tandis qu'un gendarme répond « Restez avec votre mère, mademoiselle. Nous avons juste quelques questions à poser à votre père. »
7. Secret en éclat. La voiture emportant Mario s'éloigne. Sandra étouffe ses sanglots dans les bras de Josetta.
Pourquoi, pourquoi il n'a rien fait? Il n'a pas participé à cette bagarre.
Viens, ma chérie, ce n'est pas pour ça qu'ils l'ont emmené. Viens t'asseoir près de moi. Il faut que je te parle. Ce matin même, ton père et moi en discutions, et nous avions décidé de tout te dire. Les gendarmes nous ont devancés.
C'est grave? Il a fait quelque chose de mal? Il va aller en prison?
J'espère que non, parce qu'il n'a rien fait de mal. Même s'il... si nous avons fait quelque chose d'illégal, il y a 17 ans, lorsque tu es arrivée chez nous.
Arrivée? Je suis née il y a 17 ans. Pourquoi?
Laisse-moi parler. C'est un peu difficile. Voilà. À cette période-là, je venais de faire une fausse couche. J'ai perdu le bébé que je portais et j'ai très mal réagi. Je pleurais tout le temps. Peut-être que si ça n'avait pas été le cas, on aurait mieux réfléchi.
Je comprends rien.
Ton père, à l'époque, allait souvent récupérer des vêtements dans les conteneurs publics, où les gens les déposaient. Ce n'était pas vraiment autorisé, juste toléré. Il n'était pas le seul, d'autres le faisaient aussi, des nécessiteux, des gens de passage. Un jour, sur le tas déposé la veille ou dans la nuit, il a trouvé un nouveau-né, tout petit, juste entortillé dans un foulard. Il dormait si bien qu'il a cru au départ tenir un de ces poupons réalistes qui imitent si bien les nourrissons. C'était toi, Sandra.
Moi? Mais non, vous êtes mes parents.
Nous ne sommes pas tes parents biologiques, Sandra.
Vous m'avez menti? Pourquoi?
Quand ton père...
C'est pas mon père.
Quand Mario t'a trouvé, il n'a pensé qu'à une chose, te ramener, te poser dans mes bras. Tu étais le bébé que le ciel nous avait pris. Celui qu'il nous rendait, comme un miracle. Nous n'avons pensé à rien d'autre.
Mais mes vrais parents, ils ne m'ont pas recherché?
Josetta soupire.
On ne le sait pas. Après t'avoir habillé, on avait l'embarras du choix dans les vêtements que ton père récupérait.
On t'a nourri, on a acheté le lait maternisé, les biberons, les couches, tout ce dont tu pouvais avoir besoin. On t'a gardé auprès de nous, on t'a soigné, on t'a aimé, comme si tu étais de notre sang. Certes, on a écouté les informations à la télé, lu les journaux, mais aucune allusion à un bébé enlevé, perdu.
Vous auriez pu aller à la police.
C'est vrai, mais comme personne ne semblait te rechercher, on a préféré te garder. Si on t'avait amené chez les gendarmes, tu aurais été prise en charge par les services sociaux, et on n'aurait plus jamais entendu parler de toi. Nous ne sommes pas des gens auxquels on confie un enfant à adopter.
Déjà, on ne voulait plus te perdre. Mais je ne comprends pas. Comment expliquer ma présence chez vous? Vous n'avez jamais déclaré ma naissance ou quelque chose comme ça?
Ton père, Mario, je veux dire, connaissait un type qui trafiquait parfois des faux papiers. Il nous a fourni un document à nos noms qui a permis ton inscription dans les registres d'état civil sur notre livret de famille. La larme de Sandra ont séché sur ses joues, rouges de colère.
Vous êtes de sales menteurs, je vous déteste!
Elle sort de la caravane en claquant la porte. Elle a besoin de marcher, seule. 8. Interrogatoire. À la gendarmerie, Mario est installé dans une salle qui ne contient qu'une table et deux chaises. Les verres opaques de la fenêtre laissent deviner les barreaux qui la sécurisent. Un homme en uniforme le surveille, debout près de l'entrée. Il sort lorsqu'un agent entre, pourvu d'un dossier et d'une demi-bouteille d'eau qui est poussée devant lui. Mario ne la prend pas, mais questionne.
« Vous voulez mes empreintes, mon ADN? Pas la peine d'essayer de me piéger. »
Il parle sans agressivité, mais d'une voix ferme. « Je n'ai rien fait de mal. Ma femme et ma fille non plus. » « Pouvez-vous nous expliquer comment il a été possible de retrouver la trace d'une personne disparue il y a 17 ans, près de votre campement? Parce que vous étiez bien au terrain de Papasan, le soir de la bagarre. C'est vous qui êtes parti par la sortie secondaire. »
Mario s'imagine que les gens du voyage qui étaient près d'eux ont dû parler.
Inutile alors de nier l'évidence. Oui, nous étions là-bas cette nuit-là. Quand ça a commencé à chauffer, je suis parti avec ma femme et ma fille. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire avec cette histoire de traces. Le gendarme ouvre son dossier et commence à expliquer. Il y a 17 ans, l'âge de votre fille, n'est-ce pas, un bébé a été déclaré enlevé, mais pas par sa mère biologique, par ses grands-parents. Leur fille enceinte a voulu leur faire croire qu'elle avait perdu l'enfant ou qu'on le lui avait pris, mais elle n'a pas voulu leur dire où elle avait mis le corps de l'enfant. Elle n'a jamais dit non plus qui en était le père. Êtes-vous le père biologique de votre fille? L'avez-vous enlevé à sa mère, après sa naissance? Mario a pâli. Non, non et non! C'est vrai, je ne suis pas le père biologique de Sandra, mais je ne l'ai pas enlevée à sa vraie mère. Je ne la connais pas, je ne sais même pas son nom. Alors comment se fait-il que cette jeune fille vive avec vous et votre femme? Comment est-elle arrivée chez vous? Mario a toujours essayé de rester en bons termes avec les autorités. Il connaît plusieurs gendarmes qui acceptent sa présence, son activité qui ne trouble pas l'ordre public. Vous connaissez mon métier. Il y a 17 ans, alors que je récupérais des vêtements dans les bornes consacrées à cela, j'ai trouvé un nouveau-né. Ma femme venait de perdre le nôtre, fausse couche. Elle déprimait grave. Alors je lui ai amené le bébé et elle l'a adopté sans se poser de questions. Et vous n'avez rien déclaré? À l'époque, nous étions tellement malheureux qu'on n'a pas réfléchi.
Comme il n'y a
pas eu de grande recherche, largement annoncée, on n'a rien su des origines de Sandra. On a préféré la garder pour nous. Et cette femme la recherche seulement aujourd'hui? Pourquoi? Comment avez-vous retrouvé la trace de ma fille? La mère est décédée dans un accident de voiture peu après la naissance. Mais son ADN avait été prélevé, analysé, dans l'espoir d'une concordance, et on l'a retrouvée sur un culot de bouteille, près du foyer où vous étiez installé sur le terrain de Papassan. Votre fille s'y est-elle blessée? Oui, elle s'est coupée le pied en dansant. Mais si sa mère est morte, elle peut rester avec nous, n'est-ce pas? Elle a toujours ses grands-parents, qui l'attendent encore. Ils ont le droit de la connaître, ne trouvez-vous pas? Par votre faute, ils ne l'ont pas pu. Et elle aussi, elle aurait peut-être aimé. Monsieur Componetti, vous devrez répondre de vos actes. Le juge se chargera de les qualifier. Mario baisse la tête et murmure. Je sais. Mais ne vous en prenez pas à ma femme ni à ma fille, s'il vous plaît. Nous devons aller les interroger, et surtout prendre contact avec la famille biologique de votre... de cette jeune fille. Ils ont le droit de vouloir la reprendre. Mais elle a 17 ans et demi, presque 18. Elle est quasiment majeure. Elle a aussi le droit de dire ce qu'elle souhaite, non? Sans doute, mais encore faut-il qu'elle sache la vérité. La lui avez-vous dite, au moins? On avait l'intention de lui dire, à ses 18 ans. Quand vous êtes venu me chercher, j'ai dit à ma femme de parler à Sandra. Je pense qu'elle doit l'avoir fait. Nous allons vous ramener chez vous, et nous verrons avec elle, par la même occasion. 9. Interrogation. Avant de partir, les gendarmes ont réussi à joindre les grands-parents biologiques de Sandra. L'annonce a suscité une violente émotion et aussi leur désir de voir enfin cette petite fille qu'ils croyaient perdue à jamais. Ils se disposent à la recevoir dès que possible. Les gendarmes emmènent une de leurs collègues, formée à l'écoute des enfants et des femmes victimes de violences ou d'abus, lorsqu'ils ramènent Mario au camping. Ils savent qu'il n'y a pas de risque qui leur échappe, même s'il devra régler quelques démêlés avec la justice. Ils trouvent Josetta en pleurs, seule dans la caravane. Mario s'affole. « Où est Sandra? Tu as pu lui parler ?»« Oui, je lui ai tout dit. Elle est sortie. Je ne sais pas où elle est allée. Je suis désolée. Je n'ai pas su la retenir. » Cependant, ils n'ont pas le temps de se poser d'autres questions. Sandra revient, les yeux encore gonflés de larmes, mais décidée à exiger des explications. Mario la prend dans ses bras. « Ma petite fille, ma chérie, laisse-moi, tu n'es pas mon père. Pourquoi m'avez-vous menti ainsi? On ne voulait pas te perdre. Avec notre vie sans domicile fixe, on pouvait toujours craindre. » Josetta tend alors un foulard de soie où, sur un fond bleu ciel, des angelots s'envolent et jouent de la musique. « Voilà ce qui t'enveloppait quand Mario t'a trouvé. On avait prévu de te le donner pour ton anniversaire. » Sandra le prend, le laisse se déplier. Les reflets de lumière donnent vie au petit personnage joufflu aux ailes de plumes dorées. Elle le replie et le pose, prend dans un tiroir les foulards bariolés dont elle s'affuble pour danser les pieds nus à la lueur des flammes. Sans un mot, elle les plie aussi,
alors que d'habitude elle les laisse se mélanger entre eux. On dirait presque qu'elle prépare un bagage. Boucle un adieu. Josetta et Mario s'étreignent et retiennent leurs larmes. La femme gendarme s'adresse à la jeune fille. « Nous avons averti vos grands-parents. Voulez-vous que nous vous emmenions pour les connaître ?» Sandra renifle, puis répond « Oui, allons-y. » Et elle sort sans un regard pour ceux qui l'ont recueillie et élevée. Mario prend sa femme contre sa poitrine, et l'un contre l'autre, ils étouffent leur chagrin, en silence. La voiture des gendarmes s'éloigne sans tarder. « Pourquoi ? Pourquoi nous faire ça ? Crois-tu qu'on la reverra ? On aurait dû lui dire plus tôt, non ?»« Je n'en sais rien, Josetta. Je ne sais plus. J'espère, oui, j'espère qu'elle reviendra. Je ne crois pas que les services sociaux s'en mêleront, vu qu'elle est presque majeure. Par contre, tout dépendra d'elle. » 10. Le choix de Sandra. Le trajet n'est pas très long. Finalement, Sandra n'a pas quitté sa région de naissance. Ils arrivent devant une belle maison, aux murs clairs, aux grandes fenêtres, accueillantes dans son jardin ordonné, aux allées bien tracées, aux dallages bien entretenus. Les gendarmes laissent leurs collègues accompagner Sandra jusqu'à la porte. Là, un homme aux cheveux gris, qui semble aussi solide que sa maison, les accueille avec un air bienveillant, bien qu'un peu réservé. Elles entrent dans le salon. Une femme, maigre, aux cheveux noirs, manifestement teints, les accueille sans un sourire. « Je suis ton grand-père, Sandra, n'est-ce pas ?»«
Oui, bonjour. »«
Bonjour, Sandra. Voici ta grand-mère. »«
Bonjour. »
L'attitude glaciale et guindée de la vieille femme, qui ne répond pas, désarçonne Sandra, qui comprend qu'elle n'est pas la bienvenue. Sur l'invitation de son aïeul, elle s'assied dans un vaste fauteuil très mou et profond, au tissu si doux qu'elle a l'impression d'être un morceau de sucre en train de se dissoudre. Elle voudrait ramasser ses jambes sous elle et se pelotonner en boule, mais elle devine que son geste sera mal considéré. Alors elle se retient.
« Quel âge as-tu ? »
17 ans et demi, bientôt 18.
Tu es bien grande déjà, nous avons à nous connaître. Et si tu le souhaites, tu peux venir vivre ici avec nous, tu auras ta chambre et... »
La cordialité du grand-père n'arrive pas à cacher l'animosité de plus en plus marquée de son épouse. Assis sur le rebord d'une chaise, le dos droit, figé jusqu'à son regard fuyant qui fixe un point sur le sol. « Voulez-vous boire quelque chose, un jus de fruits ?» Il se tourne vers sa femme, comme pour lui donner l'ordre de s'acquitter au moins de cette tâche, mais elle ne bouge pas. Elle semble emmurée dans son mutisme et son immobilité. Il soupire, regarde Sandra et n'ose plus parler. Sandra regarde son accompagnante et murmure seulement « On peut partir ?» La femme lui répond d'un sourire contrit et se tourne vers le grand-père.
« Je suis désolée. Peut-être pourrons-nous revenir une autre fois ?»«
Une autre fois ?» Cela veut dire en l'absence de votre épouse, qui manifestement ne veut pas connaître sa petite fille. Le vieil homme se lève.
Oui, ce sera mieux, une autre fois. Je vous raccompagne.
Sandra s'extirpe du fauteuil, qui ne l'a pas entièrement digéré, et se dirige la première vers la sortie. Sur le seuil, son grand-père sort avec elle et ferme la porte derrière lui.
Je suis désolée, nous avons tant souffert.
Il se rattrape et ajoute pour lever l'ambiguïté de sa parole « Nous n'en voulons pas à ceux qui t'ont recueilli, Sandra. Mais notre fille, ta maman biologique, a tout fait pour qu'on ne te trouve pas, pour dissimuler ta naissance. Elle nous a menti, jusqu'à sa mort dont nous ne savons même pas si elle est purement accidentelle. Elle n'a jamais voulu rien dire de ton père naturel. Notre fille était... Enfin, elle n'allait pas bien, même avant d'être enceinte. C'est sans doute mieux que tu aies pu avoir de bons parents, Sandra. » La jeune fille regarde le vieil homme et le voit si désolé et désarmé qu'elle cède enfin.
« Je veux bien vous te connaître, grand-père, ou papy. Enfin,
tu m'appelles comme tu veux, ma petite fille. Pour ta grand-mère, il faudra sans doute encore du temps qu'elle se fasse à l'idée qu'elle pardonne à notre fille, qu'elle se pardonne à elle-même. Elles se sont tant heurtées, disputées, alors qu'elles t'attendaient. Et juste avant l'accident aussi, elles n'ont pas eu le temps de faire la paix. Je me doute que tu n'as pas envie de venir habiter ici, n'est-ce pas ?
Non, je préfère rester avec... Mais...
Avec tes parents, ton père et ta mère, tu peux continuer à les nommer,
les considérer ainsi. Ils le méritent. Je suis prêt à les connaître, s'ils le souhaitent aussi. Si tu as envie de venir me voir, tu es la bienvenue, d'accord ?
Oui.
Ils se regardent tous les deux en silence. Le vieil homme entr'ouvre ses bras et demande « Est-ce que tu veux bien que je t'embrasse ?» Sandra, alors, d'un élan sincère, met ses bras autour de son cou, tandis que le grand-père la serre avec tendresse. « Merci, merci, petite Sandra. À bientôt, n'est-ce pas ?»«
Oui, c'est promis. »
11. Danser avec les foulards. La voiture bleue ramène Sandra au camping de la Boire Torse. Pendant le trajet, Sandra ose poser une question à la femme assise à côté d'elle. « Elle me déteste, ma grand-mère, n'est-ce pas ?»«
Tu as entendu ton grand-père. Cela s'est très mal passé entre ta mère et elle. Sans doute qu'elle n'est pas toujours parvenue à faire son deuil. Ton retour va certainement l'y aider. »«
Mais je ne veux pas la revoir. Si je veux bien apprendre à connaître mon grand-père, je ne le veux pas avec elle. » »«
Il faudra sans doute du temps. Au départ, tu peux limiter tes relations avec lui seulement. Il sera bon de vous rencontrer en dehors de leur maison. » Et aussi qu'ils fassent la connaissance de tes parents, s'ils le désirent tous, ce qui n'est pas évident. Veux-tu que je le leur demande ?
Non, je le ferai moi-même. Merci.
Lorsqu'ils arrivent, la gendarme tend une carte à Sandra. Voilà mes coordonnées, tu peux m'appeler quand tu veux. J'ai écrit aussi l'adresse et le téléphone de tes grands-parents. Tu veux bien me tenir au courant ?
Promis. Encore merci.
La porte de la caravane est restée ouverte. Mario et Josetta entendent arriver la voiture et sortent partagés entre l'angoisse et l'espoir. Le temps de remercier ses accompagnants, Sandra court vers ses parents.
« Papa, maman !»«
Sandra, tu es revenue !»«
Oui, je ne veux pas vous quitter et je veux continuer à danser avec les foulards, toujours !»«
Tant mieux, nous avons eu si peur que tu veuilles rester avec eux ou qu'on t'y oblige. »«
Qu'ils essaient, je me sauverai !»
« Cela ne se produira pas, ma chérie. Tu es quasiment majeure. »«
Mais vous, on va vous punir pour m'avoir recueillie, élevée. » »«
On nous le reprochera, c'est certain, surtout si tes grands-parents portent plainte contre nous. »«
Je ne crois pas que mon grand-père le fera. Je pourrais l'en empêcher. »«
Ma grand-mère, elle, ne veut même pas me connaître. Elle doit penser que je ne suis qu'une bohémienne, une va-nu-pied. D'ailleurs, ma mère et elle ne s'entendaient pas. »«
Nous devrions rencontrer ton grand-père, Sandra. » Nous devons parler avec lui, nous excuser aussi. J'ai son téléphone, vous voulez que je l'appelle ?
Si tu veux, autant ne pas perdre de temps. Propose-lui de venir ici, nous ne voulons pas nous imposer chez lui.
12. Le foulard aux anges. Sandra s'occupe d'installer un goûter à l'ombre des arbres devant la caravane en attendant l'arrivée de son grand-père. Lorsqu'il arrive et descend de la voiture, il attend un instant, s'imprégnant de ce lieu de vacances, qui est un lieu de vie épisodique pour sa petite fille. Sandra s'avance vers lui.
« Grand-père, viens, je vais te présenter. »
Mario et Josetta, statufiés, patientent avec une certaine angoisse. L'homme qui se présente n'est manifestement pas de leur milieu. Ils redoutent les conséquences de leurs actes anciens.
« Voici mes parents. » Mario et Josetta Componetti et
Antoine Chevalier, complète le grand-père en tendant la main avec simplicité. Je suis heureux de vous connaître et de voir à quel point vous avez su vous occuper de Sandra. Soyez sûr que je ne veux pas vous la prendre, mais j'aimerais bien la voir de temps en temps, si elle le souhaite, bien sûr.
Merci. Nous voulions raconter son histoire à Sandra pour ses 18 ans, mais le ciel en a décidé autrement. Sans doute aurait-elle voulu savoir qui étaient ses parents, et vous aurait-elle alors découvert votre épouse et vous ?
D'un geste, Josetta a invité tout le monde à s'asseoir autour de la table. Ma femme, Catherine, s'était très gravement disputée avec notre fille, Nathalie, en particulier à cause de cette grossesse qui allait rendre délicates les études que nous voulions qu'elle poursuive. Nathalie était une enfant difficile et régulièrement en conflit avec l'autoritarisme de sa mère. Elle venait d'avoir son permis de conduire et un jour, après une querelle de plus, elle est partie, en furie. Antoine baisse la tête. Si nous ne lui avons pas offert cette voiture, nous n'avons pas eu de ses nouvelles pendant quelques jours. Puis les gendarmes l'ont retrouvée au matin, dans un ravin. On a parlé d'accident. Il me reste toujours un doute. Nathalie avait dit qu'on ne la reverra plus jamais.
Je crois que c'est en particulier cela que ma femme se reproche encore aujourd'hui.
« Nous sommes désolés, » murmure Josetta, compatissante.
« Je me dois d'être sincère avec vous, et surtout avec toi, Sandra. Tu as le droit de tout savoir. »«
Merci, grand-père. »
« Nous ne savons pas non plus ce qui s'est passé entre le moment où Nathalie est partie et celui où on l'a retrouvée. Toujours est-il que le médecin légiste a affirmé qu'elle avait accouché, mais il a été impossible de retrouver le bébé. Personne ne l'a déposé devant une porte, ne l'a confié à quelqu'un. Des recherches ont été faites, mais en vain, nous en étions arrivés à la conclusion que l'enfant était mort avant l'accident et son corps dissimulé quelque part. Nous n'avons pas insisté parce que notre fille n'était plus là. « Alors, à quoi bon ?» Antoine a baissé la tête, les lèvres tremblantes. Mario prend alors la parole.
« Je regrette de ne pas avoir signalé la découverte de Sandra. J'espère que vous nous pardonnerez. Josetta, tu as tout raconté à Sandra, n'est-ce pas ?»«
Oui, je lui ai dit que nous venions de perdre notre enfant. Alors, quand tu as trouvé ce nouveau-né, nous n'avons pas réfléchi. »«
Où l'avez-vous trouvé ?»«
Comme vous le voyez ?» Mario désigne son camion-magasin. Je suis chiffonnier, revendeur de vêtements. À l'époque, j'allais souvent récupérer des habits jetés par les gens dans les conteneurs spéciaux. Un jour, j'ai trouvé un tout petit bébé, entortillé dans un foulard.
Josette s'était levée et était allée chercher le foulard aux angelots. Elle le dépose devant Antoine qui, très ému, pose ses mains dessus.
C'est Catherine qui avait offert ce foulard à Nathalie. Notre fille l'adorait. Elle a donc donné à sa fille? Elle n'a pas laissé de mots?
Non, il y avait juste un petit carton sur lequel il y avait écrit Alexandra,
le prénom qu'elle avait donné à sa poupée.
Vous nous en voudrez sûrement toujours de vous avoir privé de votre petite fille. Si nous l'avions signalée, grâce à ce foulard et à l'indice du prénom, elle vous aurait été rendue.
Je regrette, mais après la perte de notre bébé, nous avions fini par croire que le ciel réparait son erreur. Et puis ce bébé avait été jeté, rejeté.
Antoine regarde Sandra. Quand je vois ce qu'il est devenu, ce bébé, je ne peux vous en vouloir. Je ne sais pas comment nous t'aurions élevé, Sandra, ni si nous aurions pu surmonter le chagrin d'avoir perdu notre fille. Après tout, c'est peut-être aussi bien. Et merci d'avoir partiellement gardé le prénom que Nathalie avait choisi.
Josetta dit, dans une mimique un peu contrite,
« Nous n'avons pas voulu garder Alexandra, cela faisait prétentieux pour nous. Alors on a choisi Sandra, qui est plus en accord avec notre mode de vie. Et Sandra a toujours aimé les foulards. Elle en a toute une collection et elle danse avec. Je suis sûre que vous serez très fière d'elle quand vous la verrez. »
Ici se termine « La fille au foulard » de Rachel de Caro. Illustration musicale de Pascal Krieg, tout droit réservé.